L'évangile selon Jean est un chef-d'œuvre, vous le savez probablement. C'est un chef-d'œuvre littéraire, non seulement de par la beauté et la simplicité de sa forme, mais aussi et surtout en raison de la profondeur et de la puissance de son message. Les versets 1 à 18 du chapitre 1 de l'évangile, que l'on appelle le prologue de Jean, est un chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Il est une sorte de portique qui nous permet d'entrer dans l'évangile tout en nous présentant les grands thèmes qui vont être abordés dans le livre. Alors nous allons lire ce glorieux texte qui est la parole de Dieu pour nous ce matin. Donc Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce texte, comme vous l'avez remarqué, est très contemplatif. Quand on lit ce texte, vous avez peut-être ressenti cela, on est comme plongé dans un autre monde. Ce texte nous parle de la relation entre le Père et le Fils, une relation éternelle qui existe depuis toujours. Il nous parle aussi de l'incarnation, de la parole qui s'est faite chair. Elle nous parle aussi du fait que le Fils éternel de Dieu a assumé une nature humaine. Elle nous parle aussi du fait que nous pouvons devenir enfants de Dieu, que grâce à la venue de Jésus dans le monde, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce matin donc, au travers de ce texte, de la parole de Dieu, nous allons voir que nous sommes enfants de Dieu grâce au Fils unique venu du Père. À la suite de plusieurs commentateurs, je pense que le prologue est structuré comme un chiasme ou comme un sandwich. Dans ce genre de structure, l'auteur parle d'un sujet au début et puis il en reparle à la fin. Donc voyez par exemple ici, on aura dans notre image d'un sandwich, c'est une structure, on a d'abord du pain, le beurre des deux côtés, la moutarde, le fromage, la salade, la viande. Ça c'est une structure en chiasme, mais les auteurs bibliques, quand ils veulent souligner quelque chose, parfois utilisent. Alors selon certains commentateurs, le prologue est structuré ainsi. La meilleure manière de le voir, c'est de voir Jean-Baptiste apparaître à deux endroits. Et puis, entre deux, il y a des choses. Donc ça, c'est un bon indice. Donc, ici, avec les références, que l'on, selon en tout cas le commentateur que j'ai suivi, et puis, cette structure nous dit la chose suivante, nous dit que c'est les versets 11 à 13 qui sont au centre et qui est le centre de ce message. Pardon. Et donc, au centre de notre message, il y a cette vérité que grâce à ce que Jésus a fait, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu à ceux qui ont la foi. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Si nous pouvons, et donc cette vérité que nous pouvons devenir enfants de Dieu, elle est encadrée par ce que j'ai appelé ce qui est la salade ici. Et la salade, voilà les textes qui nous parlent dans ces textes. Ça nous parle de l'incarnation. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et puis l'autre verset, et la parole s'est faite homme. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on peut devenir enfant de Dieu uniquement grâce à l'incarnation. C'est parce que vous et moi, nous pouvons devenir enfants de Dieu grâce au fait que Jésus s'est incarné, que le Fils est devenu un homme. En tout cas, c'est ce que je vais retirer de ce texte. Il y a plein d'autres choses dans ce texte que l'on pourrait voir. Et puis, il y a un autre élément, c'est que nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons être unis à Jésus-Christ, avoir foi en lui pour devenir enfants de Dieu. Et donc, dans l'union avec Christ, on devient enfant de Dieu. Et Christ est le Fils de Dieu. Et ce texte commence et finit par nous parler de la relation entre le Père et le Fils. Et donc, si nous voulons comprendre cette glorieuse vérité que nous sommes enfants de Dieu, nous devons saisir non seulement l'incarnation, le fait que le Fils éternellement engendré du Père s'est incarné, il a assumé une nature humaine, mais on doit pour cela aussi comprendre la Trinité, le fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà pour les deux textes qui commencent. Le verset 1, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Une distinction entre la parole et Dieu et en même temps une identification. Elle était au commencement avec Dieu. Et le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est le Fils qui nous a révélé le Père, parce qu'il est le Fils unique du Père. Donc voilà un petit peu notre programme pour ce matin. Nous allons méditer sur le fait que nous sommes, par la grâce de Dieu, enfants de Dieu. Et c'est rendu possible grâce à l'incarnation et puis à la Trinité. Et directement, c'est l'idée d'orienter nos regards. Je pense que ce texte, alors il dit plein d'autres choses, mais je vais relever que cela. Ce texte pointe un aspect du salut que parfois on peut oublier. On se dit, ok, Jésus, il est mort et ressuscité pour que je sois sauvé. Mais la nature du salut chrétien, c'est d'être uni à Jésus-Christ et dans l'union avec Christ, d'être dans la communion du Dieu trinitaire. Le cœur de la foi chrétienne, c'est Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui s'est révélé en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme. Ce sont des glorieux mystères. Et ce que j'aimerais montrer, en tout cas un des éléments, c'est que nous devons, en tant que croyants qui se sachons enfants de Dieu, voir que le salut, c'est bien plus qu'un cadeau. Parfois, on peut voir le salut comme c'est Dieu qui nous envoie la grâce du ciel. Et puis, on est sauvé. Mais ce texte nous montre que la réalité, c'est que le salut, c'est d'être enfant de Dieu, d'être uni avec Dieu. Et nous devons, le plus grand bénéfice du salut, bien sûr, c'est que nous sommes pardonnés de nos péchés, que nous sommes déclarés justes. Mais tout ça, ça a un but, c'est la communion avec Jésus-Christ. Et c'est la communion avec Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Donc, ce qu'on va faire ce matin, ça va être un petit peu comme ce texte. Ce sera assez doctrinal, assez contemplatif, assez parfois spéculatif. Mais l'objectif, c'est vraiment de nous encourager à voir grandir dans notre connaissance du glorieux Dieu que nous adorons et pour se réjouir encore plus du privilège énorme que nous avons d'être enfants de Dieu. Et tout de suite, on commence par parler du fait que Dieu est différent de nous. Donc on va parler de la Trinité et de l'incarnation, deux grands mystères de la foi chrétienne. Mais tout de suite, il faut dire que Dieu est différent de nous, et parce que Dieu est différent de nous, Dieu nous est incompréhensible. La réalité de notre foi chrétienne, vous savez, ce n'est pas comme étudier la physique, la théologie, parce que nous étudions Dieu, Dieu qui nous dépasse. Et nous devons, dès le départ, se rendre bien compte que parce que Dieu est différent de nous, il nous est incompréhensible. La Bible l'affirme encore et encore que Dieu est différent de nous. Nul n'est semblable à Dieu, c'est un refrain qui revient encore et encore dans la Bible. Dieu est incréé et nous sommes créés. Il y a une distinction radicale entre Dieu et sa créature. Dieu est donc différent de nous. Dieu nous le dit dans sa parole, « Je suis Dieu et non pas un homme. Dieu est différent de nous. » Il y a une différence entre le Créateur et la créature, et cette différence n'est jamais résorbée. Il est le Dieu que Jérémie décrit de la manière suivante. « Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand par sa puissance. » Nul n'est semblable à ce Dieu, non pas parce qu'il serait une version plus puissante de nous-mêmes, mais parce qu'il n'est en rien semblable à nous. Vous voyez, très souvent, on pense que la différence entre Dieu et nous, elle est quantitative, mais pas qualitative. Non, la différence entre Dieu et nous est qualitative et pas quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parfois, on se dit juste que Dieu, il est une version de nous, à gauche, mais plus grande, plus puissante. Donc, nous, on a une certaine puissance, et Dieu, ben, il est Dieu, donc il est 10 fois plus puissant ou 1000 fois plus puissant. C'est pas faux, mais c'est pas ça qu'on veut dire. La différence entre Dieu et nous, elle est une différence qualitative. C'est pas la différence entre quelqu'un qui a une certaine force et une autre personne qui a beaucoup plus de force, c'est plus comme la différence entre un poulpe et son maître. Dieu est différent qualitativement de nous. Et cette illustration du poulpe, ça m'a pris longtemps pour la développer, mais je la crois aidante parce que très rapidement, on va comprendre ce que je veux dire. La différence entre Dieu et nous est plus comme la différence entre un poulpe et un être humain. Parce que Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures, il y a des différences. Il nous a créés, donc il y a des ressemblances, on est en son image, mais la différence est toujours plus grande. Par exemple, le poulpe se déplace et puis l'être humain se déplace. Mais la manière dont nous nous déplaçons n'a rien à voir de la manière dont un poulpe se déplace. Il se propulse, tandis que nous, on marche. Alors, si j'étais un être humain, je voulais révéler au poulpe comment je me déplace, ce serait très compliqué pour le poulpe de comprendre ce que ça veut dire marcher. Peut-être qu'il pourrait voir des crabes, ça ressemble dans son aquarium, marcher, et puis là, il aurait une idée. Mais encore une fois, ça n'aurait rien à voir entre un être humain et un crabe. Donc, tout ça pour dire que Dieu est différent de nous. Et cette différence n'est pas seulement quantitative, mais qualitative. Et parce que Dieu est différent de nous, eh bien, Dieu nous est incompréhensible. Il est vrai, il est glorieux, il n'y a pas un problème en lui. C'est que nous sommes des créatures et nous sommes comme des poulpes et le poulpe ne peut pas comprendre un être humain. Nous pouvons connaître Dieu en vérité, mais nous ne pouvons pas le comprendre. Tout comme un verre fini ne peut pas contenir toute l'eau d'un océan. Le fini ne peut pas embrasser l'infini. En tant qu'être humain limité, je ne peux pas comprendre Dieu. Je ne peux pas le saisir totalement. Je peux le connaître en vérité. Mais je ne peux pas le comprendre totalement parce qu'il me dépasse. Le poulpe ne peut pas comprendre son maître parce qu'il est un poulpe et qu'il n'est pas un être humain. Pour comprendre son maître, il devrait devenir un être humain. Or, c'est impossible. Si on voulait vraiment comprendre Dieu, il faudrait qu'on devienne Dieu. Et c'est impossible parce qu'on restera toujours des créatures. J'ai une citation. Maintenant, on va attaquer avec ça en tête. L'étude de la Trinité. Voilà ce que Thomas d'Aquin dit. La pluralité des personnes en Dieu appartient à ces réalités qui sont tenues par la foi et que la raison humaine naturelle ne peut ni explorer ni saisir de manière suffisante. Mais on espère le saisir dans la patrie lorsque Dieu sera vu par son essence quand la foi aura fait place à la vision. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il y a des choses qu'on peut connaître concernant Dieu par la raison naturelle, que Dieu existe. Romains 1 semble nous dire cela. La Trinité, on ne peut pas connaître que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit par la raison naturelle. Cela nous est révélé par la venue du Fils. Et ensuite, bien sûr, avec notre raison, on peut essayer de grandir dans l'intelligence de ce mystère. Mais on nage en plein mystère et tout ce qu'on va pouvoir dire de la Trinité, ça consiste en cela. Il continue en disant « Cependant, les saints pères ont été obligés d'en traiter de manière développée en raison des objections élevées par les contradicteurs de la foi. En cette manière et sur d'autres objets qui relèvent aussi de la foi, ils l'ont fait pourtant de manière modeste et avec respect, sans prétendre comprendre. » Ce qu'il dit là, c'est « En fait, la doctrine de la Trinité, elle a beaucoup été initiée à cause des hérésies. Et il fallait bien répondre aux hérésies. » Et puis, c'est assez modeste ce qu'on fait dans la doctrine de la Trinité. Et une telle recherche n'est pas inutile, puisque par elle, l'esprit est élevé pour saisir quelque chose de la vérité qui suffit pour exclure les erreurs et qui suffit à élever un peu notre esprit. Donc c'est très modeste. Ça fait 5 ans et demi que j'étudie assez à fond la doctrine de Dieu, de la Trinité. Et je commence juste un petit peu à découvrir, et j'espère que ces quelques éléments qu'on va voir pourront nous aider. On se rappelle que l'objectif, c'est de voir que nous sommes enfants de Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et si on veut comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, nous devons comprendre quelque chose de la Trinité. Évidemment, nous n'allons pas pouvoir tout voir sur la Trinité, mais j'aimerais donner quelques éléments qui, j'espère, va nourrir notre adoration de Dieu. Quand était-ce la dernière fois que vous êtes adressé à Dieu en lui disant « Père, Fils et Saint-Esprit » que vous êtes adressé au Père, au Dieu trinitaire? Est-ce que dans nos cultes, nous adorons le Dieu trinitaire? Est-ce que nous sommes... C'est quand la dernière fois que nous avons dit merci à Jésus parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme? Et j'aimerais, au travers de ce message, nous encourager à saisir ces vérités, en partie pour écarter les hérésies, comme Thomas le disait, mais aussi pour nourrir notre adoration et mettre ou garder au centre le Dieu trinitaire que nous adorons, révélé en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors, quelques éléments. Dans la Bible, Dieu se révèle comme Yahweh. Et le nom Yahweh, ça ne veut rien dire en fait. Dans la Bible, Dieu se révèle comme un père, il se révèle comme un berger, il se révèle comme un seigneur. Un seigneur, on sait ce que c'est quelqu'un qui règne, un roi. Un berger, on voit ce que c'est. Mais quand Dieu nous dit que son nom, c'est Yahweh, on n'a aucune idée de à quoi ça fait référence, Yahweh. Et je crois que c'est le but. Dieu, en nous donnant un nom qui n'a pas de référence dans notre monde créé, nous rappelle qu'il nous est incompréhensible, qu'il est différent de nous. Et au travers de la révélation, Dieu va, en accomplissant la délivrance de l'Exode, en accomplissant plein d'œuvres, il va permettre à son peuple de donner plein d'autres noms, qu'il est l'Éternel, qu'il est celui qui pourvoit, etc., qui vont venir nous donner une plus grande image, une image plus claire de Yahweh. Mais Yahweh, c'est son prénom, entre guillemets, son prénom personnel. Et ce qu'on voit, c'est que Yahweh, dans le Nouveau Testament, va envoyer Jésus. Jésus va s'incarner, il va naître d'une vierge. Jésus va vivre une vie parfaite. Jésus va mourir à la croix, ressuscité, remonté au ciel, et de là, il va envoyer l'Esprit-Saint. C'est toutes les fêtes qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Pâques, l'Ascension, Pentecôte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité. Parce que maintenant qu'il y a tous ces événements dans certains calendriers liturgiques, aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité. Parce qu'à la lumière de ce qui s'est passé, de ce que Yahweh a fait, c'est-à-dire qu'il a envoyé le Fils pour accomplir notre salut et il a envoyé l'Esprit-Saint pour nous appliquer subjectivement, personnellement, le salut, eh bien, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que ce Jésus et l'Esprit-Saint, eh bien, ils sont identifiés avec Yahweh. Ce que l'on dit normalement qui est réservé à Yahweh, eh bien, Jésus le fait ou l'Esprit le fait. Si bien que les chrétiens affirment que Jésus est Dieu, que l'Esprit est Dieu, et donc la doctrine de la Trinité. Et on peut résumer cette doctrine de la Trinité avec les affirmations suivantes. Il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et puis le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Père n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père, et le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Fils. Ça, vous connaissez, j'imagine, ces affirmations. On va maintenant essayer d'aller un petit peu plus loin dans la méditation de ce glorieux mystère. Ça, en ayant dit ça, on a dit tout ce qu'il fallait dire sur la Trinité. Mais on n'a pas répondu à toutes les hérésies. Et pour répondre aux hérésies, les premiers chrétiens, ils ont dû se battre, ils ont dû réfléchir pour « mais qu'est-ce que ça veut dire ce Dieu trinitaire ?» Et il y a un élément très important, c'est le redoublement de notre discours sur Dieu Trinité. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que parfois on parle du Dieu un, de son essence, on parle de Yahweh, entre guillemets, on parle de la nature de Dieu, et puis qu'à d'autres moments, eh bien, on parle des personnes, eh bien, on va être confus. Donc, parfois, nous parlons de l'essence de Dieu, que Dieu est amour, qu'il est un, qu'il est saint. Et puis, parfois, on parle des personnes. Et là, que Dieu est trois en personne. Donc, Dieu est un en essence et Dieu est trois en personne. Concernant l'essence, on va dire que Dieu, par exemple, il est bon, qu'il connaît, qu'il aime, qu'il est vivant. Il y a un certain nombre d'attributs qu'on dit « il est comme ça ». Et la plupart des autres attributs, c'est simplement dire « Dieu n'est pas comme ça ». Quand on dit que Dieu est éternel, c'est qu'on dit « il n'est pas temporel ». Quand on dit qu'il est infini, on dit simplement « il n'est pas fini ». Quand on dit qu'il est immutable, on dit simplement « il ne change pas ». Ce sont les noms négatifs. Ensuite, il y a les noms positifs. Il est bon, il connaît, il aime, il est vivant. Puis après, il y a les noms relatifs, des relations avec le monde, mais je ne l'ai pas mis là. Dieu est un en essence et trois en personne. Et Dieu est donc trois en personne, il est Père, Fils et Esprit-Saint. Et ça, ça nous est révélé dans l'Écriture. Comment penser le Père, le Fils et l'Esprit ? Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit ? Pour nous aider, on peut lire la Confession de foi baptiste de Londres, qui est éclairante à ce sujet. C'est un peu un résumé de ce que la théologie a essayé de faire comme théorie de spéculation pour essayer de penser ce glorieux mystère. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Ce que je dis là, ça ne s'applique qu'aux personnes. On ne parle pas de Dieu en tant que du Dieu un. On parle des personnes. Et en quoi le Père est distinct du Fils et du Saint-Esprit ? C'est que lui, le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils, lui, il est éternellement engendré du Père. C'est l'idée d'un Fils. Un Fils est engendré par son Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. On l'a vu dans notre texte. Dieu, le Fils unique. Le terme Dieu, le Fils unique, c'est Théon Monogenes. Je ne suis pas sûr de la prononciation, mais voilà ce que Henri Blocher nous dit. Il faut parler de Dieu comme Père, il faut aussi parler de lui comme engendré. Donc, notre confession de foi, elle dit, ok, le Fils, il est engendré du Père. Et ensuite, l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Donc, l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Et il procède par mode de spiration. C'est-à-dire qu'on dit le Fils, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire de l'Esprit, c'est très compliqué l'Esprit. Hein. Et puis quand on demandait, ok, le Fils il est engendré, voilà ce qu'il distingue du Père, mais si le Saint-Esprit était aussi engendré, on ne pourrait pas le distinguer, ce serait un autre Fils. Alors les théologiens ont cherché dans la Bible, ce qu'ils ont trouvé c'est qu'à un moment Jésus souffle sur ses disciples pour leur transmettre l'Esprit. Alors on dit que l'Esprit il est spiré, c'est juste un vocabulaire pour nous aider à marquer la distinction. Le Père engendre le Fils, et le Père et le Fils ensemble spirent l'Esprit. Parce qu'on peut aussi dire, c'est ça le problème avec le mot, c'est qu'on utilise les processions, donc le Fils procède du Père et l'Esprit procède du Père. Et on va dire que le Fils procède par mode d'engendrement et l'Esprit procède par mode de spiration. Donc, le Père engendre le Fils de toute éternité, le Fils est éternellement engendré du Père. Et ensemble, le Père et le Fils spirent l'Esprit Saint. Jésus leur dit, moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Donc vous voyez cette idée, je ne sais pas si vous êtes déjà familier avec ça, moi ça a été un peu une découverte, mais c'est que dans la Trinité, on parle de provenance, c'est procession, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui procède de l'autre, et c'est bien l'idée d'un fils, il provient de son père. Et on voit ça dans le texte, les théologiens ont été aiguillés par les textes bibliques, comme Jean 8, 42, moi c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, il provient du Père. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc son envoi dans le monde nous dit quelque chose de sa procession éternelle, qu'il est éternellement engendré du Père. Quand viendra, et ça c'est pour le Saint-Esprit, quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Donc cette idée que le Père engendre un fils, que le fils provient et procède par mode d'engendrement du Père, nous avons des fondements bibliques pour le dire, et que l'Esprit procède du Père et du Fils, on a aussi, en tout cas que l'Esprit procède du Père, on a des fondements bibliques, et après ce sera tout un développement théologique pour dire qu'il procède du Père et du Fils, peut-être que vous savez que c'est une des raisons de la distinction, selon certains, c'est toujours à vérifier, entre les orthodoxes et l'Église catholique. Donc, l'Église catholique et les protestants, on croit que l'Esprit procède du Père et du Fils, alors que pour les orthodoxes, sauf erreur encore une fois, l'Esprit procède du Père. Donc, le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Que signifie cette idée de Fils de Dieu ? On l'a déjà vu, mais je le redis sous un autre angle. C'est important que ce soit clair dans nos têtes quand on dit Jésus le Fils de Dieu, que ça nous fasse penser à ces choses, à cette relation entre le Père et le Fils. Parce que c'est à ce Fils de Dieu, Jésus incarné, que nous sommes unis et qui nous introduit dans la communion du Dieu trinitaire. Donc, l'idée de Fils, les engendrements, pardon pour les fautes d'orthographe, de notre monde, on va passer comme ça. Les engendrements de notre monde nous enseignent deux choses qui s'appliquent à la Trinité. Donc, dans notre monde, les engendrements, il y a l'idée de la communication de la nature et la simultanéité. Premièrement, la communication de la nature. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Quand on voit un fils, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que la relation entre un père et un fils est créée par l'acte de l'engendrement. Et l'engendrement, qu'est-ce que ça fait ? Ça communique la nature. Les chats font des chats, les chats engendrent des chats, les chats produisent par génération d'autres chats. Les chiens font des chiens, et puis... C'est-à-dire qu'il communique la nature, les êtres humains engendrent d'autres êtres humains. Chaque relation, donc les théologiens, ont dit tout ce qu'on peut dire des personnes, Père, Fils, Saint-Esprit en Dieu, c'est des relations. C'est uniquement ça. On ne touche pas à la nature, ça décrit une relation. Le Fils procède et est engendré par le Père engendre le Fils. C'est tout ce qu'on dit concernant les personnes. Et ces personnes et cette idée-là pour le Fils, eh bien, ça nous dit que le Fils, puisqu'il est engendré, c'est la communication de la nature. C'est-à-dire que le Fils est de la même nature que le Père, que Jésus est Dieu. C'est simplement ça. Donc le papa chat communique sa nature de chat à son fils chat. Le papa chien communique sa nature de chien à son fils chien. Le père humain communique sa nature humaine à son fils humain. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, un des éléments qu'on dit, c'est qu'il est de la même nature que le Père. Qu'il est Dieu. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc le Père a la vie en lui-même, et bien de la même manière, le Fils, il a la vie en lui-même, puisqu'ils sont de la même nature. Ainsi, il en a donné au Fils, et on a aussi l'idée de procession, c'est le Père qui a communiqué cette nature. Alors, il ne faut pas penser qu'il y a un moment donné où le Fils n'avait pas la nature, où il n'existait pas. C'est pour ça qu'on parle de l'engendrement éternel. De toute éternité, le Père engendre son Fils, le Fils est engendré par son Père, et ensemble, il spire l'Esprit. J'ai commencé par l'incompréhensibilité, parce que c'est normal. C'est des choses qu'on dit pour réfuter les hérésies. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire en Dieu. D'accord ? Dieu nous est incompréhensible, mais on sait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et que le Fils procède du Père par mode d'engendrement et l'Esprit par mode de spiration. Donc, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, l'idée c'est qu'on ait ça en tête. C'est pas autre chose. Et parfois, alors c'est bien, on dit, moi je suis un père maintenant, j'aime tellement mon fils, etc. C'est pas vraiment ça. C'est pas faux les choses qu'on peut déduire de ça. Mais quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit premièrement qu'il a la même nature que le Père et deuxièmement cette notion d'éternité. Alors c'est pas évident parce que moi, avant que mon fils Léon il existe, enfin, moi j'ai existé avant mon fils Léon, d'accord ? Et puis c'est pas simultané. Mais en même temps, il y a une petite histoire qu'un prof de théologie trinitaire expliquait. Il disait, on avait demandé à une fille de 8 ans quel âge avait son père. C'était une fille unique. Et puis elle a répondu, mon père, il a 8 ans. Alors tout le monde a rigolé. Et puis mais on lui a dit, non, c'est pas possible. Et puis elle a dit, mais oui, avant que moi je naisse, mon père, c'était pas un père. Et on voit que même un petit peu dans notre monde, il y a effectivement, je n'étais pas un père avant que mon fils Léon naisse. Donc, l'idée que Jésus est le Fils de Dieu, communication de la nature, et Il est éternellement le Fils de Dieu simultané. Il n'y a pas de Père sans Fils et vice-versa. OK ? Donc, toutes ces vérités-là, donc ça c'est la base, ça il faut peut-être l'apprendre par cœur, entre guillemets. Puis le reste qu'on a vu, bon, c'est un peu des développements spéculatifs, mais qui, je pense, sont importants pour répondre aux hérésies. Très rapidement, les hérésies. Si, pardon, excusez-moi, je reviens là. Ça, il y a à peu près sept vérités, ça dépend comment on les compte, hein, cette affirmation, qu'on peut résumer finalement en trois affirmations. La première affirmation, il y a un seul Dieu. La deuxième affirmation, c'est les trois en Dieu sont distincts. Donc le Père n'est pas le Fils, etc. Et puis, troisième affirmation, les trois sont Dieu, co-éternel et co-adoré. Et puis, les hérésies, elles ont attaqué de tous les côtés, puis ça c'est schématique, ça ne suit pas l'ordre chronologique historique, mais c'est pour nous donner une idée. Si, donc, il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, le Créateur et les créatures, et puis il ne faut pas imaginer qu'il y a trois dieux au ciel, un Dieu qui serait le Père, l'autre le Fils et l'autre le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu, Dieu est un en essence et trois en personne, et puis ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et comme on a vu, le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne, le Fils est éternellement engendré du Père, et puis l'Esprit procède du Père et du Fils par mode de spiration. Donc, si on attaque l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien on tombe dans le trithéisme. Donc premièrement, on affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ensuite, on affirme que les trois en Dieu sont distincts. Si on n'affirme pas ça, ça répond à une hérésie modaliste qui disait, bon, c'est bien joli, Père, Fils et Saint-Esprit, mais ça ne dit pas quelque chose en Dieu, c'est juste trois masques, c'est comme des masques. À un moment donné, Dieu se révèle comme Père, à un autre moment, il se révèle comme Fils, et à un autre moment, il se révèle comme Saint-Esprit. C'est l'erreur, l'hérésie du modalisme. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, puisqu'on voit le Fils qui parle avec son Père. On voit qu'il y a une relation et qu'il y a cette relation d'origine. Le Père est éternellement engendré du Fils. Et ça implique que, c'est pas, que les personnes ont une consistance. On dira, ce sont des, selon certains théologiens, c'est des relations subsistantes. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Dieu est donc un en essence et Dieu est trois en personne. Le Père engendre le Fils avec le Père ensemble spire l'Esprit. Et donc si on amenuise ça, eh bien on tombe dans le modalisme, et le modalisme c'est selon cette image des trois masques. Non, les trois sont Dieu. Et si eh bien les trois sont Dieu, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Ça, ça a été vraiment un énorme défi pour les premiers chrétiens, Arius, parce que ça, c'est vraiment la pensée biblique. Il n'y a que deux réalités. Hein. Il y a Dieu et les créatures. Il n'y a pas de réalité intermédiaire entre Dieu et le monde, entre le Créateur et les créatures. Il y a le Créateur et les créatures. Mais pour beaucoup de penseurs, et les premiers chrétiens étaient influencés par une manière de voir le monde, une vision du monde, une métaphysique du monde en dégradé, où on avait Dieu tout en haut, puis après des éons qui étaient intermédiaires entre les dieux. Hein. Donc, par exemple, il y avait cette idée qu'il y avait une sorte d'activité, le Fils, l'Esprit. Et donc, ils se sont dit, bah, évidemment, les personnes trinitaires, puisqu'on ne peut pas avoir plusieurs dieux, c'est évidemment, ils se situent là. Le Fils est une créature. Et ils avaient des passages bibliques, ils avaient toute une argumentation quand même pour défendre ça. Et donc, évidemment, ils ont dû se battre contre ça, contre l'arianisme. Et puis, Dieu est donc un en essence et Dieu est trois en personne. Le Fils est engendré du Père, l'Esprit procède du Père et du Fils par mode d'inspiration. L'Église a répondu pour éviter justement que l'on tombe dans cet arianisme. Donc, dès le moment où on va dire non, mais le Père, lui, il est Dieu, mais le Fils et le Saint-Esprit, ils ne sont pas vraiment Dieu, ils se situent dans ce rôle intermédiaire. Bien sûr, ils sont plus grands que les créatures. Ça, c'est sûr, ça, c'est évident. Mais ils ne sont pas Dieu. Eh bien, on tombe dans l'arianisme et on est hérétique. Et on ne veut pas faire ça. Trinité. On va aller maintenant beaucoup plus vite pour l'incarnation. Mais on a deux mystères ce matin. Le mystère de la Trinité. Dieu est en essence, trois en personne. Le Père engendre un Fils de toute éternité. Le Père et le Fils ensemble spirent l'Esprit de toute éternité. Et qu'est-ce qui se passe dans l'incarnation ? Donc on a vu que Dieu est en essence, trois en personne. Dans la Trinité, on dit que Dieu il est un en essence, où il a une nature, et qu'il y a trois personnes. Quand on va maintenant penser Jésus-Christ incarné, ce sera un peu l'inverse. On va dire qu'il y a une personne avec deux natures. Jésus, c'est une personne avec deux natures, une nature humaine et une nature divine. Une personne, entretillé, qui est vrai Dieu et vrai homme. Alors pour illustrer ça, qu'est-ce qui s'est passé à Noël ? Eh bien, Dieu, le Fils, s'est incarné. Le Fils, ce n'est pas l'Esprit, c'est le Fils qui a assumé une nature humaine. Le Fils est devenu Jésus le Christ. Donc, on pourrait penser à l'incarnation, puis pendant longtemps j'ai pensé un petit peu comme ça. On se dit, bon, bah, le Fils, paf, il est venu dans le monde, tac, il se sépare, entre guillemets, du Père et du Fils, il s'incarne, il vient, et puis il revêt, il assume une nature humaine. Mais ce n'est pas comme ça que nous devons penser les choses, non. Le Fils est tout le temps engendré du Père. Il ne peut pas y avoir de division dans la Trinité. Et parfois, on a eu une vision de la croix où il y a une séparation entre le Père et le Fils. Je ne pense vraiment pas qu'on peut dire ça en doctrine trinitaire. L'idée derrière, c'est de vraiment montrer que Jésus a souffert à notre place et que selon sa nature humaine, il s'est senti abandonné du Père. Mais il n'a jamais été abandonné du Père puisqu'il est éternellement engendré du Père. On ne peut pas diviser Dieu. Et ce Fils a assumé une nature humaine et donc il a comme rajouté la nature humaine à sa nature divine dans la personne du Fils. Et pour Dieu, puisqu'il est déjà parfait, enfin ça, j'ai lu ça quelque part, je trouve intéressant, je ne sais pas à quel point c'est exact, mais c'est intéressant de se rendre compte que pour Jésus, rajouter quelque chose, c'est un abaissement. Parce que Dieu est déjà tellement plein de vie, il a tout parfaitement en lui-même. Donc dans l'incarnation, le Fils assume une nature humaine si bien que nous confessons que Jésus, c'est une personne, Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ, le Fils éternellement engendré du Père, qui est vrai Dieu selon sa nature, il a toujours été le Fils engendré du Père, et maintenant il a assumé une nature humaine, si bien qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Très concrètement, ça veut dire que quand Marie porte Jésus dans ses mains pour le bercer, quand Marie tient Jésus dans ses mains pour le bercer, à ce moment, Jésus, selon sa nature humaine, est porté par Marie. Okay ? Mais au même moment, Jésus, selon sa nature, donc selon sa nature humaine, Jésus, il est porté par Marie. Mais au même moment où Marie est en train de porter Jésus, selon sa nature humaine, Jésus, selon sa nature divine, il tient le monde dans ses mains. Et donc Marie, c'est lui qui, à ce moment, selon sa nature divine, il donne la vie, le mouvement et l'être à Marie. Voilà encore un glorieux mystère, encore une fois, que nous recevons par la révélation de Dieu. On ne va pas déduire ça rationnellement, mais on peut le penser. Et là encore, on est abouti à cette affirmation suite à plein d'hérésies. Et là, on ne va pas passer, par contre, tout ça en revue. Par contre, on va maintenant voir comment ça se connecte avec notre texte. Et ce que j'essaye de nous aider à voir, c'est que nous sommes enfants de Dieu grâce à l'incarnation. Donc, le Père engendre de toute éternité Jésus selon sa nature divine. Jésus s'incarne, il va assumer une nature divine. Et donc, encore maintenant, il y a un être humain au ciel. Jésus a gardé sa nature humaine. Il est remonté au ciel, l'ascension. Et il y a un représentant de l'humanité dans la présence de Dieu. Et l'évangile, une manière de voir l'évangile, c'est que tous ceux qui croient au Fils, eh bien, seront unis à Jésus et seront dans la communion du Dieu trinitaire. Et donc, il y a deux mouvements. Deux temps. D'abord, l'assomption de la chair qui fait du Fils le frère des hommes. L'incarnation est essentielle pour notre salut. Jésus, le Fils éternellement engendré du Père, s'est incarné. Et ensuite, il y a un deuxième mouvement, c'est l'union spirituelle qui place certains hommes en Christ, qui fait d'eux les frères du Fils, enfants de Dieu. Donc le salut, c'est l'union avec Christ, c'est être uni avec Jésus, c'est être passé de en Adam, où on était ennemi de Dieu, à en Christ, où on est ami de Dieu. C'est passé de en Adam, où on n'était pas les enfants de Dieu, à en Christ, où on devient les enfants de Dieu. Trinité, incarnation, enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans le Fils, dans la Trinité. Dans le Fils, dans la Trinité. En tant que chrétien, je suis en Christ, dans la Trinité. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, si je mets ma foi en Jésus, je passe de en Adam à en Christ, je suis uni à Christ. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Le salut, c'est devenir enfant de Dieu. Ce droit de devenir enfant de Dieu est glorieux parce que imaginez ce que ça veut dire. Nous sommes unis au Christ qui est le Fils éternellement engendré du Père. Et nous sommes donc introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Ce qu'on verra au ciel, ce qui nous réjouit au ciel, c'est qu'on verra Dieu face à face. Et ce qu'on verra, selon certains en tout cas, c'est les processions, c'est que l'engendrement du Fils et l'Esprit. Et ça nous comblera de bonheur parce que Dieu est le bien suprême. Et en le voyant, nous serons comblés de bonheur. Tout comme quand on mange un bon gâteau, on possède ce bien, ça nous remplit. Et bien, en voyant Dieu, on sera comblés de la joie. Ça a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Dans le Christ, ce Christ qui s'est incarné, qui est une personne, vrai Dieu, vrai homme, et nous sommes donc introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Le salut est un salut trinitaire, Christ et christologique. Et je crois que ce texte de Jean, et j'espère que les quelques réflexions que j'ai proposées là, nous aident en tout cas à voir le contexte glorieux, le contexte christologique de mon être chrétien. Je suis chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis uni à Christ. Christ, il est le Fils de Dieu, il est vrai Dieu, vrai homme, et il est éternellement engendré du Père. Je suis introduit dans la communion du Dieu trinitaire. Ça devrait ressortir dans nos cultes, ça devrait ressortir dans nos chants, ça devrait ressortir dans nos prières. Nous adorons le Dieu trinitaire. Nous adorons Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, le Christ. Il est vrai Dieu, vrai homme. Il est mort pour nos péchés à la croix, il est ressuscité. Et si nous mettons notre foi en lui, nous sommes unis avec lui et introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Associé au don de l'Esprit du Fils, l'adoption est par Jésus-Christ. Elle nous constitue frères de ce chef qui nous entraîne à sa suite et nous conforme à sa ressemblance. Le caractère christologique de l'adoption justifie la formule classique « Nous sommes faits fils dans le Fils ». On devient fils et fille de Dieu en étant unis au Fils de Dieu. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu grâce au Fils unique venu du Père. Quel privilège nous avons, frères et sœurs. Et les applications, je suis désolé, je n'ai pas énormément d'applications existentielles ce matin. Si ce n'est de nous inviter à continuer l'étude en sachant que Dieu est incompréhensible, il nous est incompréhensible parce qu'on est limité, mais à grandir dans cette connaissance de Dieu Trinité. On ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Et plus on va connaître Dieu, et à quel point il est glorieux, plus on va grandir dans l'amour. Et je nous invite à grandir dans le fait de manifester dans nos louanges, dans nos prières, dans notre manière de penser ces choses, à nous rappeler de la Trinité, de la christologie, c'est-à-dire que Jésus est une personne avec deux natures, vrai Dieu, vrai homme, en une personne, et que nous sommes unis à ce Christ. Et dans l'union avec Christ, nous sommes introduits dans la communion du Dieu trinitaire. Et actuellement, c'est un aperçu, mais au ciel, on contemplera Dieu et on sera dans une joie parfaite et totale. Amen.